Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma. Aujourd'hui, on sort les rotatives, on parle du journalisme dans les films.
Hé, hey, c'est quoi le texte?
Comment on dit déjà?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir?
Laisse tomber.
Graffiti Cinéma.
Tcha! Graffiti Cinéma.
Depuis que l'art s'est découvert un septième registre, les toiles de cinéma ont accueilli des curieux, des enquêteurs et leur meilleure icône est devenue celle du journaliste. Défenseur des causes perdues, héros très largement positif dans les scripts, le reporter cherchant la vérité au nom de l'intérêt général est un des personnages clés du cinéma traversant tous ses âges. Alors aujourd'hui, entre la France et les États-Unis, nous parcourons dans notre filmographie de la semaine ces enquêtes clés en compagnie de notre invitée, une journaliste, Sophie Deschamps, que nous avons rencontrée à RCF Loiret, dont nous saluons toutes les équipes. Journaliste à Maxentre, auteur du Silence des Soutanes, une enquête, un véritable travail d'investigation dont elle va nous parler, évidemment en lien avec les films que nous évoquons cette semaine. Avec elle, notre équipe de la semaine, Milan, Thomas, les deux Nicolas, Geoffrey et votre serviteur.
Vous m'expliquez ce que vous faites ici, Madame Vincler? Quoi, vous courez après les heures de ménage? Je l'ai lu, votre dernier livre.
J'en ai marre d'entendre parler de la crise, du chômage, de la précarité, d'une façon abstraite. J'ai besoin de voir, de partager le quotidien, pour voir ce qui se passe vraiment.
C'est vous, la remplaçante? Faudra vous fouler plus que l'autre, hein.
Adapté du récit de Florence Omnas, Le quai de Ouistreham, Ouistreham, le film de Emmanuel Carrère en version raccourcie, propose une relecture du personnage du journaliste d'investigation à l'ancienne, rappelant les célèbres enquêtes d'Albert Londres dans l'histoire, ou de Jack London, voire de George Orwell. Marianne Vincler entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s'installe près de Caen, change d'identité et rejoint l'équipe de femmes de ménage. Une juste à côté de chez elle. Sans filer, en première ligne, elle découvre le fonctionnement de ces groupes de travailleuses de l'ombre. Et cette enquête, en première ligne, est portée par une figure un peu à la Élise Lucet qu'on voit aujourd'hui dans le journalisme en France. Sauf que ce journalisme d'investigation, il n'est pas forcément très pratiqué parce qu'il coûte très cher. Ce sont des enquêtes très longues sur lesquelles des rédactions doivent s'engager sur, évidemment, du long terme, sans forcément une garantie d'avoir un livre, en tout cas, derrière, qui va avoir un gros succès d'édition. C'était le cas du quai de Ouistreham, qui a pu évidemment ensuite derrière obtenir cette très belle adaptation. On va en parler de ce film évidemment, comme dans le livre pourtant, car l'histoire aurait pu s'arrêter très très vite sur les quais de Ouistreham à la rencontre d'une conseillère Pôle emploi.
C'est très hypocrite.
Et c'est vrai que la conseillère Pôle emploi lui dit, ce qui est très bien écrit dans le film, ouais, potentiellement en faisant votre enquête, vous prenez le boulot de quelqu'un.
Voilà. Et donc, là, elle dit, elle dit, moi, la règle que je me suis fixée, c'est quand j'obtiens un CDI. Et la conseillère lui dit, je peux vous en proposer. Elle lui dit, non, ne faites pas ça, laissez-moi faire mon enquête, laissez-moi jouer le jeu. Et effectivement, et quand on voit le type de boulot que c'est, on se dit que finalement, elle vole pas grand-chose parce que ce sont des boulots vraiment épouvantables. Et notamment sur les ferries, puisque ça se passe à Caen et que Dunkerque est pas loin, ou Calais, je sais plus. Il y a les ferries qui embarquent pour l'Angleterre.
Ils ont une heure et demie pour nettoyer
60 chambres, ouais, 4 minutes par chambre. Et à un moment, parce qu'on se dit, bon, c'est un boulot comme un autre, mais je sais pas, essayez chez vous déjà de faire votre lit en 4 minutes.
J'ai un ami, il faisait pas en 3 semaines.
Ami est mon colocataire.
Déjà que c'est impossible. Elles expliquent qu'elles ont mal au dos, qu'elles ont mal au bras, que même la nuit, les bras tremblent encore, etc. Et détail sexiste, c'est que seules les femmes s'occupent des sanitaires. Les hommes, c'est comme ça. Les hommes ne s'occupent pas des sanitaires.
Et c'est ce type de détail, je dirais, on ne va pas forcément l'avoir dans un article qui va être fait à la journée. Il faut vraiment enquête au long cours pour le découvrir.
Et ça, si on ne s'immerge pas soi-même, parce qu'on peut très bien imaginer qu'on invite des journalistes pour leur montrer ce que c'est que le travail d'une femme, d'un agent d'entretien sur un bateau, et forcément, on va enjoliver. J'ai envie de dire, c'est pareil pour dans un abattoir. J'ai eu l'occasion d'avoir une visite de presse d'un abattoir. D'abord, on ne nous a pas montré la mise à mort.
Non, ouais.
Je ne m'en suis pas plainte, mais on ne nous l'a pas montré, alors que c'est le poste le pire. Et effectivement, là, on nous a montré un peu le bon côté des choses, évidemment. Donc là, si on veut, ou je pense à, puisqu'on est ici à Orléans, je pense à Arthur Frayer, l'Alex, qui s'était mis, lui, dans la peau d'un maton et qui s'était fait embaucher à la prison, à la maison d'arrêt d'Orléans.
Ça fait beaucoup de bruit, ça.
Je dis bien la maison d'arrêt d'Orléans parce que c'est l'ancienne maison d'arrêt qui était où il y a maintenant la piscine, là, et qui était vétuste, etc. Et c'était le seul moyen qu'il avait pour connaître la réalité de l'intérieur.
Ouais, pour dénoncer les conditions de travail, voilà, vraiment
c'est
dans
ça,
un.
Ouais. C'est ça.
Mais déjà, moi, je trouve que socialement, hormis cinéma, c'est quand même assez dramatique que ça soit justement des journalistes qui soient obligés de se mouiller, de faire une investigation comme ça pour dénoncer des choses qu'on veut peut-être pas voir ou qu'on n'a pas. Quand la justice n'est réellement pas faite. Donc c'est vraiment le côté... Il y a vraiment ce côté héros ordinaire qui forcément appelle le cinéma. C'est l'enquêteur comme ça, c'est comme le détective privé. Il y a un côté avec les nouveaux films d'enquête comme ça, c'est vraiment, je trouve, du néo-film noir. Enfin, du néon-film noir, parce que c'est toujours une lumière dégueulasse au néon, toujours très cru et tout. Mais attention, un respect au chef-op, parce qu'il faut être bon pour faire une lumière dégueulasse comme ça. Non, non, mais du coup, évidemment que c'est éminemment cinématographique, ça appelle, puis à chaque fois, c'est des intrigues, c'est vraiment incroyable. Mais comme ça passe par le spectre cinéma, il y a forcément un truc un peu, pas romancé, mais cinématographié, quoi, en fait. On n'a jamais, dans une enquête, dans la réalité, il n'y a jamais ce truc-là qui se passe au bon moment par rapport au rythme et tout. Mais c'est intéressant que ça se fasse pour montrer que ça existe, surtout. Pour montrer que, voilà, c'est vraiment du héros ordinaire et... Là, voilà, les Américains, par exemple, ils adorent ça. Il y a du Erin Brockovich, alors qu'elle n'est pas journaliste. C'est ça. Mais il y a vraiment un sentiment de justice qui anime. Et ça, c'est super important. Et ouais, je trouve.
Moi, je trouve, après, c'est mon analyse, mais que, en tout cas, aujourd'hui, de plus en plus, le journaliste va être un personnage secondaire. Il y a moins en moins de films avec un journaliste qui est le personnage principal et on le suit dans sa quête. Parce que je pense qu'il y a cette vision d'avoir envie d'un spectateur... Faut se reconnaître dans le personnage principal, faut que le spectateur puisse se reconnaître. Du coup, on va prendre quelqu'un qui a un métier plus banal, plus normal, qui va faire une enquête, donc plus proche du lanceur d'alerte que du vrai journaliste, et qui sera aidé par un journaliste. Ben, on a vu ça récemment dans Boîte Noire, il y a aussi ça dans Blowout de Brian De Palma,
complètement, oui.
qui a un film magnifique, et où en fait, le journalisme est omniprésent, parce qu'on est quand même sur une affaire... une enquête, le journalisme est omniprésent, mais le personnage qui l'incarne est secondaire et va aider le héros qui lui n'est pas journaliste.
Je suis assez d'accord, et dans Wistreham je trouve que c'est aussi un peu le cas, parce que ce qui est très intéressant, c'est que là on est presque sur une forme hybride qui est assez à la mode, c'est le docu-fiction. C'est-à-dire effectivement c'est un spectacle, mais on est quand même dans le documentaire, d'autant plus que les... À part Juliette Binoche, qui est une actrice, évidemment, toutes les autres agents d'entretien, ce sont de vrais agents d'entretien. Et elles jouent leur propre rôle. Après, Juliette Binoche, elle est formidable parce qu'elle n'hésite pas à s'attaquer à son image, à jouer non maquillée, ridée.
Il y a beaucoup d'investissements personnels.
Ça, c'est formidable aussi. C'est aussi, je pense, une évolution du cinéma, alors que certaines actrices, si elles n'ont pas, elles veulent...
Elles ne font pas toutes ça, oui.
Et Juliette Binoche fait partie de celles qui cassent ces codes-là, et c'est très bien. Et en fait, Juliette Binoche, moi, j'ai eu l'impression, en regardant le film, qu'elle se laisse porter aussi par les autres. C'est les autres qui lui montrent comment faut faire le travail, etc. Et elle accepte de passer effectivement un petit peu au second plan, même si elle est omniprésente pendant tout le film, évidemment.
Ouais, mais c'est le sujet vraiment qui prime, voilà, c'est ça. Elle montre, elle n'est pas là pour occulter le sujet, c'est ça qui est intéressant.
Les journalistes deviennent célèbres, notamment ceux qui font de la télévision ou de la radio parce qu'on les voit.
Oui.
Mais la vedette, c'est l'actualité, c'est la vérité.
Exactement. Il y en a qui sont plus animateurs maintenant que journalistes, hein, clairement. Et oui, c'est pas eux le centre d'intérêt, c'est le sujet. Je suis tout à fait d'accord. Ouais.
En France, on a aussi cette culture du journalisme dans le cinéma, mais où le réalisateur a une part un côté journalistique. Et ça nous vient de la nouvelle vague. Toi, tu nous parlais. Du réalisateur de Wistreham qui allait chercher des vraies femmes d'entretien. Donc il y a aussi une recherche, une espèce d'enquête pour le travail artistique. Mais en France, on a ça depuis la nouvelle vague, depuis qu'on a eu des caméras portatives. Le docu-fiction, c'est quelque chose qui est très français, aussi italien, mais qui est très très français. Et on a un côté docu-fiction dès la nouvelle vague dans les films de Godard ou ce genre de films.
On a toujours adoré aussi, on a une culture de réalisme social, comme tu dis, avec les Italiens et tout ça. On a toujours en effet été très porté là-dessus.
Très inspiré du cinéma russe,
exact.
Le réalisme socialisme, etc. etc. Et voilà. Du coup, effectivement, on a cette volonté de beaucoup dénoncer souvent.
Et Ken Loach en Angleterre, évidemment.
Ah bah, alors, les Anglais.
Évidemment.
Merveilleux, les Anglais.
Vous croyez que votre journal a les reins assez solides pour s'y attaquer? Oui, je le crois. Et vous?
Un prêtre de Boston a abusé d'enfants dans 6 paroisses différentes ces 30 dernières années. Les autorités de l'église l'ont appris et n'ont rien fait. On n'a jamais mobilisé de ressources d'investigation à long terme sur cette affaire.
Non, jamais.
Et c'est le genre de choses que votre équipe ferait?
Spotlight?
L'église jettera toutes ses forces dans la bataille.
J'aurais besoin d'informations complémentaires.
Je ne veux aucune trace de cet entretien. Pas de notes, rien.
D'après nos infos, vous avez négocié plusieurs affaires avec l'église.
Je suis tenu au secret.
Pour un petit garçon pauvre qui grandit à Boston, quand un prêtre fait attention à vous, c'est pas rien. C'est difficile de dire non à Dieu.
Voici un film touchant particulièrement notre invité de cette semaine. En 2015, Tom McCarthy réalise ce film enquête Spotlight, retraçant le travail des journalistes du Boston Globe, couronné par le prestigieux prix Pulitzer, mettant à jour un scandale sans précédent. En effet, pendant 12 mois, cette cellule d'investigation a mis à jour la pédocriminalité dans l'église catholique, révélant les protections en interne dont ont bénéficié plusieurs accusés, faisant l'objet de nombreuses révélations. Auteur du Silence des Soutanes aux éditions Regain de Lecture, notre invitée, Sophie Deschamps, décrit dans son ouvrage son enquête en France et dans le Loiret, et elle nous présente sa démarche journalistique que le cinéma a souvent mis en scène dans d'autres contextes.
Fin 2018, octobre, 30 octobre 2018, il y a un procès à Orléans qui est inédit, c'est-à-dire qu'en même temps, un évêque et un prêtre sont jugés le même jour, en même temps. L'évêque, c'est l'évêque fort, ne vient pas pour raison de santé, mais je vais dire, c'est pas ça qui est important. Et le prêtre, bien sûr, est jugé pour des faits d'attouchement. Le procès va durer 10 heures. Donc déjà, c'est très long. Et quand moi, j'arrive, pour le couvrir, évidemment, pour RCF à l'époque, j'arrive sur le parvis du tribunal, qui est à l'ancienne, comme un temple grec, voilà. Je vois des gens du diocèse qui sont là, et moi, naïvement, je pense qu'ils sont venus en soutien aux victimes. Oui. Et donc je leur dis, je vais les voir, je leur dis « Ah, mais c'est formidable, vous êtes là. » Et là, ils me répondent quasiment tous « Oui, on vient soutenir notre évêque. »
Oh.
Et là, moi, j'avoue que je...
Ah, il y a de quoi tomber des nues quand même là.
Je tombe des nues, pas de ma chaise puisque je suis debout, mais des nues. Et je leur dis « Et les victimes ?» Et là, oui, les victimes, mais...
Oh la vache, ouais. Ils en font pas un peu trop non plus. Non, mais ça va pas dans vos têtes, quoi. C'est incroyable, ça, quand même.
Je
vous
jure que c'est vraiment ça. Et là, moi, je suis tétanisée. Et on défend l'institution avant de défendre les personnes. Mmh. Et ça, de la part d'hommes d'église, de croyants, de catholiques, je trouve que c'est une faute, que c'est abominable. Mmh. C'est qu'un contre-témoignage, si je vais employer un terme un peu religieux. Je rentre dans la salle et je m'aperçois que tous les gens du diocèse sont là. Et je me dis, en fait, ils ne sont pas là pour les victimes, ils sont là pour soutenir leur évêque. Alors, à côté de ça, évidemment, il y a des journalistes de toute la France, puisque
oui,
c'est la première
très
fois.
Très médiatisé, oui, une affaire comme
c'est
ça.
On parle aujourd'hui du procès d'Orléans. Donc moi, bien sûr, je prends la note, etc. Et le lendemain, pour en parler, j'ai 1 minute 30 au National pour résumer un procès de 10 heures. Et personne ne me propose de faire une émission spéciale. Et là, je ressens une immense frustration en me disant, mais là, il y a de quoi écrire un livre. Tout de suite, je me dis, il y a de quoi écrire un livre. Parce que là, je découvre que d'emblée, effectivement, il y a 3 victimes, mais que ces 3 victimes qui cachent une énorme forêt, ce qu'a montré le rapport Sauvé, en fin d'année. Et je me dis, c'est pas possible, quoi. Et je vois des... Alors, il y a des témoins qui ont été... qui viennent à la barre à la demande de l'accusation, donc des victimes, pas de la défense, et qui disent « Oui, mais à l'époque, on ne savait pas, les faits remontent à 93. » Et très justement, la présidente du tribunal dit la loi sur la pédocriminalité, elle date de 1992. Donc la loi existait, vous auriez dû dénoncer, vous. Enfin, les prélats ressortent vraiment les joues en feu, rouges, quoi. Très très mal, et moi je suis écœurée, je suis révoltée, je passe par tous les sentiments, et il se trouve que je quitte la radio fin janvier, donc 2 mois après, et 2 mois après, je me retrouve avec du temps, et là, c'est à ce moment-là que je décide d'écrire le livre, et le livre, je l'écris en 4 mois, et pendant que j'écrivais le livre, tous les jours, il se passait des choses. tous les jours. Mais moi, le problème, c'est que je suis la seule journaliste à RCF à l'époque. Voilà. Et du coup, je débat avec moi-même, quoi. Donc là, c'est très compliqué. La radio autour, j'ai dû prévenir, je vais couvrir le procès. Si j'avais dit, j'ai pas très envie de couvrir le procès, on m'aurait dit, t'as raison.
Il y a déjà d'autres médias qui s'en occupent, c'est bon. Enfin, c'est incroyable quand même.
Et moi, je perçois le... Je sais pas pourquoi, je perçois que c'est un truc hyper grave, hyper important. Il y avait déjà eu quand même le précédent en 2001, de l'évêque de Lisieux qui avait déjà été condamné pour non-dénonciation. Un ancien évêque d'Orléans me l'avait dit à mi-mot, qu'il avait couvert un prêtre. Donc c'est peut-être tout ça mis bout à bout qui fait que... Mais à l'époque, en 2001, dans la radio, les gens disaient c'est un complot contre les prêtres.
Ils tenteront de faire taire tous ceux qui parlent.
Laissez-moi tranquille, nom de Dieu !
6% passe à l'acte.
6%, ça fait 90 prêtres.
Si on avait autant que ces enfoirés, vous pensez bien que ça se saurait.
Peut-être que ça se sait. Tu vas me donner les noms des prêtres et ceux de leurs victimes.
J'espère que tout ceci peut rester entre nous le temps qu'on se mette au diapason.
C'est pour ça qu'on est là, on doit se mettre au diapason. On a le choix entre deux sujets. Un sur la perversité du clergé, un autre sur une bande d'avocats qui transforme des viols sur mineurs en un juteux fonds de commerce. Lequel de ces deux papiers tu veux qu'on sorte? Parce qu'on en sortira.
Ils savaient et ils ont laissé faire. Ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi, ou n'importe quel d'entre nous.
Spotlight dit que c'est à peu près 15% du clergé qui est touché. Donc c'est énorme. En France, on n'est pas du tout dans cette... Mais il se trouve que dans le diocèse du Loiret, il y a beaucoup de prêtres pédocriminels, puisqu'il y en a encore un, Olivier de Citivaux, que je peux le citer parce qu'il va être jugé, il est mis en examen. Il y a eu Loïc Barjou qui a été condamné.
Ouais. Ouais, il y en a un peu partout, c'est pas des cas isolés, c'est ça qui est complètement
dingue. C'est pas des cas isolés dans le Loiret, rien que dans le Loiret, déjà on en est à 5-6. Et c'est pour ça que le rapport Sauvé, la veille, je sais pas si vous vous souvenez, la veille de la diffusion, on parlait de 10 000 victimes, et Europe 1 commence à dire peut-être 100 000. Et à l'arrivée, c'est plus de 300 000 et c'est un chiffre bas.
Enfin, moi, ce genre de film, bon, évidemment, c'est très important si ça peut faire connaître le truc, mais. Je trouve que on est en 2015, c'est complètement acté. On sait, personne peut dire que il n'y a pas de pédophilie. C'est acté, les gars. Donc qu'on soit obligé en plus d'en faire un film grosse machine américaine avec je sais pas combien d'acteurs et tout ça, je trouve quand même ça un peu dingue pour faire réagir les gens. Je trouve ça un peu dingue. Et moi, ça me fait penser, hélas, à l'américaine, c'est pour être dans le game, les mecs. Faut qu'on fasse un film là-dessus, c'est de la prod, c'est pour les Oscars, c'est très bien. Ça m'emmerde un peu, ça. Mais pardon, vas-y.
Je comprends ce que tu veux dire par le côté machine à Oscar. Je trouve que quand même, ils ont peut-être une régularité en fait dans ces thèmes qu'ils abordent et qu'on a à l'écran, par rapport à nous qui avons une certaine forme de timidité.
Alors, je suis tout à fait d'accord parce que...
Je sais pas si on a une timidité sur le sujet en question, là, la pédophilie ou la pédocriminalité. Est-ce qu'on a une timidité dans la production de ces métrages sur ces thèmes-là, ou est-ce qu'on a une timidité juste sur le thème en lui-même?
Je pense qu'en France, on a quand même une timidité.
Parce que Spotlight,
le responsable du 16 est venu nous en parler en disant c'est un film formidable, mais en fait il pensait ça se passe là-bas.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est pas chez nous, chez nous ça n'arrivera pas.
Et
je peux vous assurer, quand ça a commencé à arriver chez nous, c'était plus du tout le même discours. L'évêque, je n'arrivais pas à l'interviewer. Oui. Alors que ça a été le premier à mettre en place une cellule d'accueil et d'écoute des victimes. Mais moi, après, j'ai beaucoup travaillé avec Olivier Savignac, qui est une des victimes du procès que j'ai couvert à Orléans. Il me disait, mais cette cellule, elle ne fonctionne pas, c'est que des gens de l'évêché. Donc, à un moment, ils vont se retrouver avec un voisin, un cousin, qui va leur dire, j'ai été violenté par un tel, et là, ils ne vont pas savoir quoi faire. Donc, il me dit, ça devrait être des gens de l'extérieur et des professionnels, c'était que des bénévoles. Et il me donnait le cas d'une personne qui avait fait... Il faut se rendre compte que les personnes pour témoigner, c'est très difficile. Oui. Ça, c'est ce que j'ai découvert parce que j'ai des témoignages dans mon livre. Il y a des gens, ils mettent 40 ans pour pouvoir témoigner. Et ils témoignent parce que d'autres l'ont fait. Et donc, aller dire à une cellule, oui, j'ai été, et qu'au bout de 10 jours, on n'a pas de réponse, c'est juste pas normal.
Et c'est tout l'intérêt donc, de ce personnage de fiction du journaliste. Alors, évidemment, on va rebondir, on va garder nos interventions. On va se mettre une pause musicale. Et puis, dans la deuxième partie, on va évidemment revenir sur ce sujet très poignant, très important, qui, en France et dans le cinéma français et anglo-saxon, a mis vraiment en valeur le rôle social et cinématographique du journaliste. Finalement, le cinéma prend un rôle démocratique Évidemment, il se sert au passage avec le cinéma de récompense, ça aussi c'est ce que nous évoquait Geoffrey. Dans la deuxième partie de l'émission, on va évoquer le journalisme et le réalisme à l'écran, et là on va revenir dans les années 70, où on a vraiment montré de manière peut-être de beaucoup plus clinique, encore une fois, le travail du journalisme. On est au Pâté Saran, on enregistre Graffiti Cinéma, on se retrouve juste après une pause musicale.
Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous, dans un instant le reste de l'actualité.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Nos auditeurs sont en attente, je n'en peux plus. Téléspectateurs en demande, images passées et repassées. J'en ai tant dit et redit, je suis perdu. J'ai usé de nos experts, de nos correspondants de guerre. Abusé des grands reporters, des sondeurs de sondages, commentateurs, menteurs d'images. Et sous leur toison lisse glissent des scies. Superposition de supposition, ils vont me mettre ma télé en bouteille.
Donnez-moi de l'information.
Ouais, c'est ça, les...
Donnez-moi de l'information.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. L'actualité doit primer, rien ne peut l'arrêter, sauf
publicité.
On se retrouve après ça, mélangeons tout, tirons la chasse. Papier water, l'auditeur, coup de Trafalgar, des voitures de luxe, des hommes en déroute, des slogans qui frappent. Chirurgicale, opération boursière, bancaire, comptage de morts qui monte et sort de l'audimat. Qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte.
Donnez-moi de l'information.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance, des révélations impromptues pour mon prompteur abattu.
Des débats animés,
pleins de manies et de tics
journalistiques.
Manichéen
et deux, et trois. Passant à l'heure,
on se contente à titre
d'un flot de superlatifs.
À chaque instant son plus ceci, et chacun veut son plus cela. Et tous pour un et tous pourri, on simplifie, ça amplifie. Édition spéciale, édition spéciale. Une interview de l'homme qu'aurait vu l'homme qui n'a rien vu. Mais moi j'ai tout entendu. Oui, tout entendu, oui, 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 moi j'ai tout entendu. Oui, tout entendu. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. Donnez-moi de l'information.
Mais d'abord les prévisions de Joël Collado de Météo France. Une plutôt belle journée côté météo en tout cas.
Je peux vous poser une question purement théorique?
Oh là là, je n'aime pas ça, les questions théoriques.
Je ne pense pas que vous aimerez la vraie question non plus.
Vous vous êtes procuré le rapport?
C'est en cours.
C'est une atteinte gravissime à la sécurité nationale. Ça a fuité du Pentagone? Les documents de guerre les plus hautement confidentiels.
Le Times détient 7000 pages qui racontent en détail 30 ans de mensonges de la Maison Blanche sur la guerre du Vietnam. Tous ces mensonges, il faut que cette époque soit révolue.
Ok, tout le monde s'inquiète de voir une femme à la tête du journal. Ils craignent que vous n'ayez pas le cran de prendre les décisions difficiles.
Arthur, je vous remercie pour votre franchise.
Allons faire notre boulot. Dégotez-moi ce document.
On parle de divulguer des secrets que le gouvernement garde depuis des années.
C'est légal, ça?
Qu'est-ce que tu crois qu'on fait ici comme métier, mon grand?
Ben, j'ai peut-être quelque chose.
Ça doit être précieux, ce que vous avez là.
Oh, ce sont
des documents secrets des Français.
Le New York Times a reçu l'interdiction de continuer à publier des documents confidentiels concernant la guerre du Vietnam.
Si on publie, on comparaît devant la Cour suprême la semaine prochaine.
C'est-à-dire...
Nous pourrions tous finir en prison.
D'avoir pris une telle décision, d'avoir risqué sa fortune et l'entreprise à laquelle elle a consacré sa vie, ça, je trouve ça vraiment courageux.
Si le gouvernement l'emporte, le Washington Post cessera d'exister.
Si nous, on leur demande pas des comptes, qui le fera ?
Nous ne pourrons demander des comptes à personne si notre journal ne paraît plus.
Nixon mobilisera toute la puissance de la présidence. Et s'il existe un moyen de te détruire, tu peux être certaine qu'il le trouvera.
Je te demande un conseil, Bob, pas ta permission.
Elle ne peut pas faire ça. L'héritage spirituel du journal est en jeu.
Que se passera-t-il si nous ne publions pas ?
On sera perdant. Le pays sera perdant.
Qu'est-ce que vous comptez faire, Madame Graham ?
Nous sommes au Pâté Sarand, nous enregistrons Graffiti Cinéma. Bienvenue dans Graffiti Cinéma. Nous parlons du journalisme d'investigation et comment le cinéma français anglo-saxon s'est emparé de cette figure-là. Alors, dans la première partie, on a parlé de l'ouvrage de notre invité, Sophie Deschamps. Donc, on vous rappelle que si vous êtes intéressé par le sujet, évidemment, c'est donc Le Silence des Soutanes à Corsair Édition dans la collection Regain de lecture. Vous pouvez vous procurer directement sur le site de l'éditeur, ou si vous êtes orléanais, bah, vous regardez dans les librairies. On en trouve par exemple au temps moderne hein, pour les Orléanais, Sophie, et on en parlait parce qu'évidemment...
Voilà, Librairie Nouvelle.
La Librairie Nouvelle, on l'a cité Spotlight dans la première partie, qui est un film vraiment important d'enquête journalistique. Alors Milan, en première partie, je sentais que tu avais quelque chose à dire sur Spotlight, je vais te lancer directement là-dessus, parce que dans la deuxième partie, on va parler de journalisme et de réalisme à l'écran, en évoquant ces films tutélaires des années 70.
Alors oui, je voulais dire que effectivement, alors moi j'ai pas vu Spotlight, donc je vais pas beaucoup en
super,
parler.
Super, bravo.
Désolé. Mais en France, on a quand même eu aussi, grâce à Dieu, de François Ozon. On en a beaucoup. Il a beaucoup fait parler ce film d'un point de vue politique en fait, parce que il était sur des affaires actuelles et des affaires qui sont gravissimes.
L'affaire Barbarin, d'autant que le diocèse de Lyon a essayé de le faire interdire.
Oui,
hein.
Et voilà, on passe par la censure quand même.
Il a essayé d'être censuré, ce film. Et du coup, en France, on a quand même... on a aussi ce côté, cette dénonciation qui est présente. On a ces auteurs, on a François Ozon, qui a voulu dénoncer ses actes. Après, il le fait différemment, parce qu'effectivement, on en parlait en antenne, mais on n'est plus du côté journalistique, on est avec les victimes. Mmh. Effectivement, bah, j'en parlais tout à l'heure, il y a des journalistes, mais qui sont secondaires, qui vont venir aider les victimes qui sont là pour témoigner de ce qu'elles ont vécu. Quoi.
Alors, on va mettre en fond sonore la bande-annonce d'un film qui est absolument incontournable pour le journalisme au cinéma. Alors, c'est Les Hommes du Président d'Alan Gipakula en 76.
Bonjour. Base 1 to Unit 1. Base 1 to Unit 1. Hold it, you mother! Hold it, police!
Alors, Les Hommes du Président, Nixon décide d'enquêter pour préparer sa campagne de réélection. Ses candidats démocrates, il met des micros, sauf qu'il prend des bras cassés pour le faire. Et vous avez directement le veilleur de nuit qui tombe dessus. Et puis, ça passe comme une lettre à la poste. Ça a failli passer comme une lettre à la poste, sauf que deux journalistes, alors des jeunes, hein, à l'époque, incarnés par Robert Redford et Leslie Hoffman, mais à l'époque, ils ne sont pas connus. C'est devenu des légendes du journalisme parce qu'ils ont évidemment le prix Pulitzer pour ce qu'ils ont réussi. Décide de reprendre l'affaire et ils s'aperçoivent que derrière quelque chose de très très anodin, à savoir un petit cambriolage de bras cassés qui en plus ne veulent rien, puisqu'ils posent juste des micros dans une espèce de bureau, il n'y a rien de spectaculaire, c'est absolument clinique, puis remonte jusqu'à Nixon et directement le comité de réaction de Nixon. Il faut suivre l'argent, follow the money, comme on dit dans le film, en VO, qui est absolument devenu un film culte. Les Hommes du Président d'Alan Gipakula, c'est le chef-d'œuvre du cinéma parano des années 70 aux États-Unis, qui amène la démission de Nixon, évidemment, et le Watergate, et qui va directement infuser dans la culture américaine. Là, pourquoi on utilise ce film ? Parce que le travail journalistique, il est montré de manière absolument clinique, réaliste. Et on a ce plan, pareil, Sophie, où vous avez des gars qui vont aller chercher des fiches de lecture dans des bibliothèques, qui vont aller chercher des contacts chez des assistants d'avocats. C'est absolument pas spectaculaire, ce film.
C'est ça, c'est un travail de fourmi, c'est un travail ingrat, méticuleux, qui doit être précis. Il faut faire des recoupements, il faut vérifier ces informations, ces sources. C'est pour ça que la protection des sources est tellement importante et que régulièrement, on essaye de revenir dessus. Et effectivement, il faut être motivé, il faut se dire que que voilà, c'est pour ça qu'on parle aussi du cinquième pouvoir.
Exactement. Et comment on peut expliquer aujourd'hui, quand on doit transmettre ce film-là, parce que l'air de rien, il a plus de 40 ans, il est même plus
il a été repris avec Pentagon Papers.
Pentagon Papers en 2017, quasiment 41 ans après, qui prend la même histoire et qui met l'accent sur un personnage qui est essentiel, qui est Catherine Graham.
La directrice du journal, PDG du journal.
Qui est essentielle pour ces deux journalistes, parce qu'on peut le dire, Bob Woodward et Carl Bernstein.
Parce que c'est elle qui décide. Qu'on
fait l'enquête.
Qu'on fait l'enquête ou pas, qu'on publie l'info ou pas, alors qu'elle est invitée par les politiques, parce qu'elle fait partie de l'élite. C'est ça le problème aujourd'hui.
C'est fantastique, parce que cette histoire raconte tout, en fait, finalement, de ce qu'on a vécu, tous les grands mouvements qu'on a vécu dans les années 70 et qu'on vit aujourd'hui, la place de la femme, évidemment, le journalisme, la quête de vérité, la démocratie, et évidemment l'égalité entre tous les citoyens. Alors évidemment, là, je brasse très très large, mais ce film-là, Les hommes du président qui infusent dans Pentagon Papers, moi, je vous conseille, si vous avez vu aucun des deux, de voir les deux à la suite. C'est très très bien de voir les écoles de cinéma qui se correspondent.
Tout à fait.
Parce que le parti pris de Spielberg dans Pentagon Papers est beaucoup plus de concentrer sur les personnages. Oui. Alors que dans Les hommes du président, finalement, on les met quasiment de côté. Et cette cinéma d'enquête devient véritablement central avec des
figures. Oui, c'est plus le scandale qui prime.
Alors moi, je autour de la table, Nicolas, je vais te lancer, parce que je pense que Les hommes du président, à l'époque, on était à la fac, on l'avait regardé en même temps, quasiment. C'est devenu un film quasiment culte maintenant, mais qui est très peu diffusé, et pourtant, il gagnerait aujourd'hui à être revu.
Notamment dans les écoles de journalisme.
J'ai regardé, il est disponible sur Amazon, pour les clients du film. Oui, moi j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus clinique, qu'il était beaucoup plus... Enfin, moi, quand j'ai vu Les hommes du président, c'est vrai qu'on ressort de ce film, on a un peu la rage, on a envie d'être journaliste, on a envie d'y aller, on a envie de se confronter au sujet, on a envie de...
un petit peu aussi. Ça a dû créer des vocations. Hein.
Le côté un peu chevalier blanc à la recherche de la vérité.
Ce côté pourfendeur, on a envie d'aller comme ça au combat, aller déceler des côtes. Le film de Spielberg, moi, je le trouve beaucoup plus formel, et c'est vrai qu'il s'attache plus au personnage. Le sujet est déjà traité, on connaît déjà la fin, on connaît déjà le propos, et c'est vrai qu'on est moins dans le... Enfin, moi, il m'a moins emmené, il m'a moins impacté, et je trouve que c'est moins un film qui traite du journalisme, plus que deux journalistes au final, de personnages qui sont comme ça embarqués dans cette histoire. Et tu disais, les plus intéressants par rapport aux propos sur... le mélange des genres entre justement la presse et les mamas de la presse, avec tous les contacts qu'ils peuvent avoir avec le milieu politique, en fait ils sont cul et chemise, et c'est là un peu le problème du propos. Et moi j'ai une question qui vient suite à cette discussion, c'est en gros aujourd'hui, est-ce qu'on paye pas un peu le fait qu'on est tous journalistes? En fait, il n'y a plus de journalistes, enfin je m'explique, on a tous la possibilité très vite avec notre portable de filmer, de s'autoproclamer journaliste en publiant sur YouTube, sur TikTok, sur machin. Et au final, est-ce qu'on ne paye pas un peu le fait qu'en France, aujourd'hui, la presse, elle est moins achetée, il y a de moins en moins de quotidiens, il y a de moins en moins de quotidiens vendus, achetés par les lecteurs, moins lus, et quelque part, on a un peu comme ça une presse qui se désagrège. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'on paye...
Alors, les réseaux sociaux, bien sûr, ont changé la donne, avec cette contrepartie que tu viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se croit journaliste.
Voilà, c'est ça.
Or, journaliste, c'est un métier qui a des règles. Et on ne fait pas n'importe quoi. Être journaliste, c'est pas donner son avis.
Oui, il y a une objectivité, justement, qui n'est jamais respectée dans tous ces youtubeurs, tiktokers et tout ça. Oui.
C'est, alors, avec l'émergence des fake news, c'est la vérification des sources. C'est pour ça que maintenant, dans tous les médias, on a des... que ce soit sur Arte ou ailleurs, des journalistes dont le boulot, justement, est de déconstruire les fake news, et là on l'a bien vu avec les antivax.
Alors c'est une des scènes les plus géniales des hommes du président, qui a quasiment que des scènes géniales, celle où vous avez Robert Redford et Dustin Hoffman, donc qui joue Carl Bernstein et Bobby Woodward, qui essaient d'obtenir une confirmation en utilisant des techniques absolument incroyables.
À l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a rien.
Donc ils essaient de demander, si vous ne me dites pas que vous avez fait ça, mais que vous le dites à machin... Alors je n'explique pas très bien, mais ils essaient d'obtenir une confirmation sans que les personnes s'impliquent directement pour dire... Oui, j'ai vu ça, mais comme j'étais pas responsable, je peux vous confirmer qu'il y a eu un versement. Donc après, bon, remonter finalement à la source principale, à savoir le comité de réaction de Nixon. Finalement, cette enquête, on l'oublie dans le film. Ce qu'on voit, c'est des techniques de journalistes. Alors, Roublard, c'est un peu un mot négatif, mais on voit que vous avez Robert Redford qui est l'affable dans ce film-là, et puis Abler, et puis Dustin Hoffman qui est un petit peu plus borderline, qui est dans la séduction notamment quand il va voir la secrétaire. Cette scène absolument géniale, où on voit qu'il enfonce un peu des portes, quoi, finalement, de manière très délicate. C'est pas du tout un bourrin. Mais on voit que finalement, il y a un travail très humain du témoin pour l'embarquer dans une enquête sans le mettre en porte-à-faux. Et on voit à quel point humainement, c'est des trésors d'inventivité. Et ce film-là est vraiment essentiel. Alors évidemment, Pentagon Papers, on le conseille également. Mais je trouve que Alan Dipakula, il est très très loin dans le travail vraiment de documentaire quasiment qu'on voit dans Les hommes du président. C'est un film qui n'a pas pris une ride. 76.
Ouais, c'est bien pour ça qu'on parle de la protection des sources. Et même moi, dans mon livre, je voulais absolument avoir des témoignages de victimes, de pédocriminalité. Et au départ, je ne savais pas si les gens allaient accepter de... Parce que c'est quand même dévoiler une partie de sa vie intime. C'est, donc après, il y a aussi la façon dont on mène l'interview. Et la personne en face, elle sent très bien si on fait l'interview pour obtenir des choses un petit peu...
délicates ?
Non, je voulais dire... Oui, voilà, des choses qui vont faire le buzz, voilà. Ouais. Ou si on est là vraiment pour écouter la parole, parce que dans cette Emmanuel, la parole libérée, hein, les associations qui ont été créées, c'était la parole, elle devient quasiment thérapeutique. Donc il est hors de question de jouer avec ça et de vouloir avoir des détails scabreux, intimes. Il faut vraiment et ça aussi, ça fait partie aussi, je dirais, de l'éthique journalistique, quoi. On est évidemment, on est content d'avoir ce qu'on appelle un scoop. Mais des scoops, il y en a très peu, et c'est pas ça qui fait que ce métier est passionnant.
La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est la meilleure, ça se passe comme ça. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté y a laissé des plumes. Journaliste incarcéré, journaliste assassiné, les voix des sans-voix tuées. Tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Les gouvernants font la pluie et le beau temps. Le peuple meurtri fait semblant d'être content. Une rafale de mitraillettes balaya le président. C'était regrettable accident, le même rituel sanglant. Autant en emporte le vent, le sang appelle le sang.
Le scoop,
groupe, c'est le spectacle au sens littéral du terme. Milan, sur ce thème-là, parce que c'est vrai que du coup, on n'a pas tant parlé que ça. Finalement, on voit qu'on a choisi des films qui nous montrent ce travail très réaliste parce qu'on voulait vraiment les mettre en avant. Milan, sur ce sujet-là, justement.
Ouais, je voulais reparler des réseaux sociaux, là, de ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, ce qui a beaucoup changé, c'est notre rapport à l'image. Et c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'image, plus qu'avant grâce aux réseaux sociaux, l'image est une arme, la caméra est une arme. Et on a le pouvoir de montrer ou de ne pas montrer des choses, puisqu'on peut tous, aujourd'hui avec un téléphone, filmer continuellement. Et c'est notre rapport à l'image en fait qui a changé, qui fondamentalement change le journalisme. Ouais. Du coup, aussi.
Mais sauf qu'en fonction de la légende, on peut faire dire à une image...
Bien sûr.
Tout est son contraire.
Bien sûr.
Donc c'est là où il faut qu'il y ait...
C'est
qui est une éthique parce que, voilà, parce que effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu à la mode de taper sur les journalistes. Le jour où il n'y aura plus de journalisme, on ne sera plus en démocratie et ce sera trop tard.
Et une éducation à l'image, parce qu'on a beau voir
c'est ça.
L'image qu'on veut,
c'est ça.
On n'a pas l'éducation à l'image.
Bien sûr. Et dans les écoles, il y a quand même le CLEMI qui est un organisme qui s'occupe de ça, hein, qui est justement avec de l'éducation à l'image dans les écoles. Il faut apprendre aujourd'hui aux enfants à utiliser... les écrans et la presse.
Alors, il va nous rester 5 minutes. Ouais. Je vais avoir ma question à 1 million de dollars pour notre invité en fin d'émission, évidemment. Thomas, qui depuis tout à l'heure nous envoie des sons, évidemment, on vous a évidemment.
J'ai une mini question, moi. Est-ce que dans, quand tu as enquêté, est-ce que tu t'es rendu dans des parkings sombres, dans des sous-sols un peu étroits, pour voir une source que tu vois à peine dans la pénombre? Et qui te donne un scoop incroyable.
Là, on est dans le fantasme.
Ça n'arrive jamais, ça.
Total.
C'est une clé de.
Bah, à toi.
Moi, ça m'est pas arrivé, évidemment.
Mais est-ce qu'il y a eu des témoignages plus tendus les uns que les autres, ou tu as dû un petit peu cravacher pour avoir convaincre un peu plus?
J'ai même eu un ami que je connais depuis 30 ans et qui d'un seul coup me dit, mais moi j'ai été. Moi, tout le monde m'est passé dessus au village, mon oncle, le curé, etc. Et je tombe de ma chaise. Hein,
oui, voilà,
il n'en avait jamais parlé.
Et toi, il faut que tu ramasses ça, voilà. Faut que tu prennes ça. Quoi.
Et là, je lui dis, mais est-ce que tu accepterais de témoigner? Il me dit, je réfléchis, je te rappelle. Et j'ai pas dit,
pas insisté. Quoi.
J'ai pas insisté. Et il m'a rappelé quelques jours après, il m'a dit, j'ai réfléchi et je suis OK pour... Je suis OK pour témoigner, quoi. Faut vraiment pas jouer avec ça. Parce qu'une fois qu'on s'est grillé auprès de quelqu'un, c'est fini, c'est terminé. Ouais. Puis après, j'ai envie de dire, la réputation... Enfin, on sait très bien, même sur la place d'Orléans, qui sont les journalistes fiables, qui sont les journalistes... Enfin, voilà, il y a...
On est
fiables,
nous ? Non, on n'est pas journalistes.
On n'est pas journalistes, c'est peut-être pour ça, oui.
Alors, voilà. Si vous voulez retrouver le sujet, on rappelle une dernière fois à nos auditeurs, le livre de notre invitée Sophie Deschamps, c'est Le silence des soutanes chez Corsair Éditions, collection Regain de lecture. Et Sophie, on pourra te retrouver également, on va citer un autre petit podcast qui est en train de se lancer, qui est Affaires Sensibles sur France Inter. Tu seras l'invité donc de Fabrice Drouel le 7 février, pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser au sujet, ça sera sur l'affaire Barbarin, et tu seras l'invité de Fabrice Drouel.
À 15h,
donc voilà, une émission évidemment incontournable d'investigation également. On conseille également à tous nos auditeurs. Alors, il me reste une question à 1 million de dollars à te proposer, parce qu'on a une filmographie, évidemment, on vous la rappelle, Les Hommes du Président, Pentagon Papers, Spotlight, Wistram, qu'on conseille très vivement à nos auditeurs. La bande-son, c'était Alpha Blondy, journaliste en danger. Moi, la question à 1 million de dollars, c'est, dans tous les films que tu as vus sur journalisme à l'écran, qu'est-ce que tu n'as pas vu à l'écran que toi, tu fais dans ta vie de tous les jours?
Ouh.
Est-ce qu'il y a un élément? Alors, évidemment, c'est une question piège, évidemment.
Oui, oui, bien sûr.
Mais est-ce qu'il y a un truc que tu fais tous les jours en tant que journaliste? Tu dis, mais pourquoi ça n'est pas à l'écran? Est-ce qu'il y a une chose qui t'a frappé?
Alors, il y a une chose importante, je ne sais pas si ça répond à la question, mais comme dirait l'autre, ce sera ma réponse. C'est que, quelquefois, on ne peut pas sortir l'information parce qu'on n'a pas assez de billes, on n'a pas les preuves. Et ça, c'est excessivement frustrant. Et ça, je pense que c'est arrivé à tous les journalistes. On a l'info, on sait que c'est vrai, mais on ne peut pas la donner parce que si on la sort, on a un procès derrière. Parce qu'on n'a aucun moyen, mais c'est pareil dans une enquête policière. Hein. Si on n'a pas les éléments de preuve, on ne peut pas...
Je suis en train de dire, au roman d'Elmore Léonard, ils sont page 250, ils ont exactement le même problème. Et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est fantastique et c'est bien de le dire, évidemment. Alors Thomas, on va te laisser le mot de la fin. On vous rappelle juste que...
Non, c'est juste pour une petite remarque. Tout à l'heure, tu as dit que l'évêché était difficilement accessible. Est-ce qu'on peut dire que l'évêché était fermé de l'intérieur?
Double verrouille. Oui, très bonne vanne.
Ça, c'est dur, ça.
Mais oui, bien sûr. Bien sûr.
Voilà. Bravo. Merci.
Il y a une très, très bonne candidature pour le meilleur van de la semaine. En tout cas, un grand merci Sophie d'avoir été avec nous. Donc Sophie Deschamps.
Merci beaucoup, c'était un plaisir.
Plaisir partagé. Merci les amis, Geoffrey, Thomas, Mila.
De rien, c'était un plaisir.
À la table. Et on se quitte avec la chronique de Mathieu, pas tout à fait dans le thème cette semaine, qui prolonge notre émission et qui va directement nous amener vers une autre thématique, une autre sphère de notre champ d'investigation, le journalisme au cinéma cette semaine.
Journalisme en premier.
Journalisme, oui. C'est okay. Celui que j'ai préparé, donc ça m'arrange si on fait celui-là.
C'est un plus. Cette semaine, on parlait de journalisme au cinéma dans l'émission et évidemment la chronique pas tout à fait dans le thème qu'on a pu vous annoncer, celle de Mathieu. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Eh bien, elle débarque pour justement nous proposer, comme toutes les semaines, vous suivez l'émission, une thématique liée évidemment à ce qu'on a fait, mais légèrement périphérique pour compléter le sujet. Et cette semaine, qu'est-ce que tu as pu nous concocter ?
Eh bien, je vais vous parler de séries télé. Et d'une série télé que peu de gens ont vue, c'est bien dommage, et notamment parce qu'elle est sur une plateforme qui ne perce pas en France. Alors, il faut reconnaître, la plateforme c'est Apple TV, et il faut reconnaître qu'il y a peu de choses dessus, hein. Je dirais qu'il y a une vingtaine de séries télé en tout, et une poignée de films, hein, je n'ai pas compté, mais pour l'essentiel, c'est d'une excellente qualité.
C'est plutôt sympa, et puis c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on connaît la guerre des plateformes, hein, l'air de rien, Netflix qui est déçu avec 220 millions d'abonnés, Disney Plus 120 millions, et on sait qu'Apple TV qui est arrivé après sur le marché essaye aussi de se démarquer avec des très bonnes séries, et tu vas nous en citer une aujourd'hui.
Et, des très bonnes séries, et puis une stratégie commerciale quelque peu curieuse, puisque comme la plupart des plateformes, elle est gratuite le premier mois, et elle est également, il y a 6 mois gratuits également pour tous les possesseurs d'une PS5, c'est-à-dire 5 personnes dans le monde, mais ça peut faire une bonne porte d'entrée.
Dont une en France apparemment.
Oui, une excellente série. Enfin, une excellente série, il faut passer quelques barrières. D'abord, il faut passer le titre québécois, Avant la nuit. Et il faut passer le pitch qui, si vous le lisez, vous dites, ah oui, c'est le téléfilm de l'après-midi de M6. Hein, ça fait peur.
On a été confinés il n'y a pas longtemps apparemment.
je vous le fais, le pitch. Une jeune fille de 9 ans est déjà une vraie journaliste avec 100 abonnés à New York. Son père est obligé de retourner dans sa ville natale, où elle sera confrontée à un mystère datant de la jeunesse de son père. Ta-ta-ta-ta, tiré d'une histoire vraie.
Oui, c'est vrai que...
Ça fait peur.
Bah, ça fait peur que ce soit tiré d'une histoire vraie, d'ailleurs. Mais
Alors, si on regarde le titre français, et au-delà de ça, le titre français, qui est bien sûr en anglais, Home Before Dark, en fait, la série est vraiment chouette. D'abord, on a une histoire qui est assez classique, hein, mais vraiment intéressante. Ils savent la mener, les mystères nous emmènent toujours plus loin dans le passé de son père, et c'est intéressant parce que donc là, on est sur une préado avec un groupe de préado puisqu'elle a deux amis, même si elle n'est pas très populaire et que c'est un des angles de la série, et ça l'emmène à l'époque où son père avait le même âge, donc il y a eu une disparition à l'époque où son père avait le même âge, et donc on a une galerie de personnages face à cette situation qui est peu commune, qui est vraiment passionnante. Enfin, l'actrice qui joue la jeune, hein, qui s'appelle Brooklyn Price, donc qui incarne Hilda Lisco, cette jeune de 9 ans, elle a ce côté vraiment touchant d'extrêmement déterminé. Son film préféré à 9 ans, c'est Les Hommes du Président. On est très déterminé par le journalisme.
Ou c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de DVD.
Mais qui en même temps est une enfant et qui elle est sur son vélo, ce genre de choses. Et puis quand les adultes lui font des sales coups, c'est pas évident à gérer pour elle. Sa relation avec sa sœur est vraiment très chouette, parce que sa sœur est une vraie ado, ce qui fait qu'elle a envie d'entrer dans le moule et d'avoir une petite sœur qui essaye de faire remonter les mystères et les scandales dans la ville et qui donc est détestée de tout le monde, c'est pas évident. Mais par contre, elle aime sa sœur, donc de temps en temps, elle va prendre son parti, ce genre de choses. Et tous les personnages sont vraiment très chouettes. on a la principale du collège-lycée, hein, on est aux États-Unis, tout ça est mélangé, oui. Et qui était une amie de son père, qui était vraiment très touchée quand ils avaient 9-10 ans, et qui maintenant se retrouve en tant que principale, et donc dit, bah oui, c'est bien gentil, tes enquêtes de journalisme, mais bon, tu vas suivre les heures de cours, je vais même te mettre une colle, parce que là, vraiment, ça va pas. Ah, mais en même temps, ce qu'elle creuse, ça l'intéresse, parce que ça la touche personnellement. La famille est partagée, la mère qui est avocate est hyper fière de sa fille, mais en même temps elle est inquiète de la voir se mettre des gens à dos. Le père qui est lui-même journaliste lui donne des conseils, mais en même temps voilà, il est aussi partagé, parce qu'en plus il a des problèmes professionnels qui l'ont emmené là. Les policiers en ont marre de voir cette gamine qui remue un peu du passé trouble.
On dirait un peu le script du dernier Ghostbuster aussi quand même, hein.
Non, il y a une vraie dimension humaine, et c'est le genre de série qui nous fait vraiment du bien, qui nous donne foi en l'humanité. Et donc voilà, avec ce mélange tout à fait incroyable, en tout cas pas du tout courant, du Club des 5, mais version réaliste et humaine. Donc voilà, je vous conseille de vous embarquer sur ces deux saisons de 10 épisodes pour 40 minutes à peu près chacun. Vous en sentirez une grandeur d'âme.
Est-ce qu'on peut ressortir l'accent de Brooklyn pour reciter le titre de la série ?
Le titre de la série, c'est Home Before Dark sur Apple TV. Et en petit conseil, vous prenez le mois gratuit, vous faites Home Before Dark, vous faites Si, qui est très très différent, beaucoup plus violent. Pour les fans de jeux vidéo, enfin pour tout le monde, The Human Mankind, et pour les fans de jeux vidéo, le jeu qui s'inspire de Ubisoft et dont j'ai mangé le nom, vous l'aurez la prochaine fois.
Allez, un super spoiler. Par contre, t'es sûr pour l'accent de Brooklyn ? Ouais, bref. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Je m'appelle Hilda Lisco. Je suis journaliste.
C'est pour les gens qui ne croient pas en toi.
Mon père aussi est journaliste.
Je savais pas que t'étais revenu.
Ouais, je viens d'arriver.
Est-ce que vous vous connaissez ?
Tout était tranquille par ici. Je t'aurais prévenu.
Où est-ce que t'as été aujourd'hui ?
Sur les lieux du crime.
Les lieux du crime ? En quittant la ville, il a juré qu'il y remettrait jamais les pieds.
Ah bon ? Pourquoi ?
En 88, le fils du maire a disparu. Mais on n'a jamais su ce qui est arrivé à Rich.
Et là, c'est... papa ?
Mon meilleur ami, il a été enlevé juste devant moi.
Je voulais voir une copie du rapport de police sur Richie Fife.
Quelqu'un peut s'occuper de ça.
Il n'est pas question que je m'en aille.
Je peux pas tout te montrer, mais voilà déjà ce que j'ai.
Vous m'aidez pourquoi ?
Je déteste aussi les machos paternalistes.
Jeune fille, tu ne sais pas du tout dans quoi tu mets les pieds.
On m'appelle toujours jeune fille comme si c'était un compliment. Mais je sais que c'en est pas vraiment un.
Qu'est-ce que t'as fait ?
Je suis une journaliste !
Non, t'es une écolière.
Il y a toute une ville pleine de personnes qui en savent plus que moi sur l'homme que j'ai épousé.
Il y a quelque chose que tu devrais savoir.
T'as séché l'école pour aller interroger le suspect du meurtre ?
Non. Enfin, oui. Mais non.
Karine Tardieu était de passage à Orléans ces derniers jours pour présenter son tout dernier film, Les Jeunes Amants, incarné par Melville Poupeau et Fanny Ardant. Un film magnifique, une comédie romantique qu'on vous conseille très vivement, qui sort ce 2 février et qui se concentre autour de la romance entre un personnage de 45 ans qui tombe amoureux d'une femme de plus de 70 ans, et cette différence sociétale, en tout cas ce sujet, est au cœur évidemment de ce film magnifique. Elle répondait à nos questions lors de cette conférence de presse. Retrouvez l'intégralité de ce son la semaine prochaine dans notre émission pour la sortie du film, évidemment. On vous en propose un extrait dans ces numéros en fin d'émission cette semaine.
On est déjà ensemble, Amélie.
Mais tu rappelles, toi ?
Viens avec moi. J'ai pas remis les pieds dans cette maison depuis 15 ans. C'est vous ? J'étais le médecin de Mathilde.
Je me souviens du médecin, oui. Mais il était beaucoup plus jeune que vous.
Ah oui, mais ça, c'est normal, c'était il y a 15 ans. Mais toi, tu habites...
Ce film qui raconte l'histoire d'amour d'une femme de 70 ans avec un homme de 45 ans. Et cette histoire lui avait été inspirée par sa propre mère, en fait, qui avait vécu une histoire comme celle-là sur le tard. Et Solveig tenait énormément à ce que ce film se fasse. Et à la fin de sa vie, se sachant mourante parce qu'elle était atteinte d'un cancer, vraiment 2 jours avant de mourir, elle a demandé à sa co-auteure de lui faire la promesse que ce film existe au-delà d'elle et idéalement pour elle qu'il soit réalisé par une femme. Voilà, donc elle est décédée il y a 5-6 ans maintenant et on m'a proposé le projet assez naturellement quelques temps plus tard. Le projet que Solveig avait écrit, elle l'avait écrit et donc quand j'ai lu la première version, c'était assez bouleversant mais très sombre. Et moi, en l'occurrence, j'étais sur le point de devenir maman. J'allais plutôt vers la vie. Et donc j'ai vraiment dit tout de suite à son producteur, si je reprends le projet, il faut que j'emmène vers plus de lumière. Je peux pas faire un film aussi sombre que ce que j'avais lu.
Et justement, dans la réécriture, où il y a cette scène de prologue que vous citez, que vous avez mis en avant, où les deux personnages principaux se rencontrent quelques années auparavant.
Oui.
Et dans ce prologue-là, on entend une phrase qui devient quasiment un mantra, puisqu'on le rentend, alors, sans spoiler la fin du film, et l'idée de la réplique qui consiste à profiter de la vie sans se poser de questions, finalement. Est-ce que cette réplique-là et ce prologue va inspirer, finalement, la philosophie du film ? Est-ce qu'on peut dire vraiment que l'amour, ça consiste sincèrement à pas se poser de questions, dans un sens ?
Oui, et au-delà de ça, c'est il y a l'idée que tant qu'on est vivant, on est vivant, et que même si on va mourir, on peut mourir vivant, quoi. Voilà, et que il faut profiter. Alors c'est facile à dire, profiter de chaque instant. En tout cas, quand l'amour survient, il faut vivre. Quoi qu'il arrive. Et alors ça demande un certain courage parce que ça peut faire peur de vivre quand on est comme ça au crépuscule de sa vie. Mais s'il advient, faut savoir s'en saisir.
On voit à un moment donné, elle regarde la télé avec sa fille, sa petite fille, et il y a un film avec Annie Girardot.
Oui.
Alors c'est pas dans Mourir d'aimer, mais moi ça m'a fait penser à Mourir d'aimer puisque il y a un défi sociétal et un défi cinématographique à montrer une femme plus âgée qu'un homme.
Oui.
Et on sait que Mourir d'aimer, c'est l'histoire d'une prof qui sort avec un de ses élèves lycéens, et ça avait fait un sujet sociétal absolument dingue à l'époque, puisque même le président de l'époque, Pompidou, avait dû réagir. Alors je dirais qu'il y a un défi sociétal aujourd'hui qui est peut-être moins, je dirais, violent qu'à l'époque, dans les années 60, pour représenter cet amour-là, mais il y a également un défi cinématographique à montrer cette romance-là de cette façon-là. Est-ce que vous l'avez vu comme un défi déjà ? Et si oui, comment vous pouvez y répondre finalement ?
Je dirais, dans le film dans Mourir d'aimer, il y a le défi sociétal, c'est aussi parce que c'est une professeure et son élève.
Mm-hmm.
Donc il y a une double transgression.
Oui.
Il y a l'âge, mais il y a aussi l'ascendance, quoi.
Mm-hmm.
Là, en fait, moi, mon défi, si je puis dire, c'était que l'histoire d'amour fonctionne avant toute chose. Mais c'est le cas à chaque fois qu'on écrit une histoire d'amour, quel que soit l'âge des personnages, il faut qu'on y croit. Donc il faut qu'il y ait une alchimie. Donc c'est vrai que est-ce que la différence d'âge ajoutait une difficulté ? Il fallait que, en tout cas... Elle ne pouvait se résoudre que dans le regard de l'homme, puisque le fait, elle, de tomber amoureuse de Melville Poupeau, on peut se dire oui, c'est pas difficile, c'est cohérent, si on est séduite par Melville. Et il se trouve que Fanny est tellement séduisante et tellement magnifique, je trouve que qu'on ne voit même plus son âge. Enfin,
oui, on l'oublie assez rapidement. Dingue que des personnages nous le rappellent.
Mais je pense, oui, c'est les personnages extérieurs qui nous rappellent son âge et qui lui rappellent à lui, parce que lui n'y fait pas attention, en fait. Lui, il tombe amoureux, il est éperdument amoureux et on ne sait pas pourquoi on tombe amoureux. Il peut y avoir 1000 bonnes ou mauvaises raisons de tomber amoureux.
Là, vous le dites, c'est devenu une convention, finalement, au cinéma, et c'est devenu quasiment une projection. Et finalement, dans la réécriture, ce qui va apporter beaucoup de cohérence à cette histoire d'amour, c'est les seconds rôles, comme vous l'avez dit, qui apportent vraiment cette charpente qui est essentielle et qui fait que finalement, très rapidement, ça devient plus forcément un sujet pour le spectateur. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, et je pense qu'avec les retours que vous avez eus, c'est peut-être certainement quelque chose qui ressort. Et également, je me disais que ce qui apporte énormément beaucoup d'énergie à ce film-là...
Je trouve passionnant, au-delà des relations mère-fille, d'ailleurs, c'est les relations parents-enfants, et là, en l'occurrence, c'est comment on a été aimé, et quand on est petit, par exemple, et l'impact que ça a sur la manière qu'on a d'aimer à l'âge adulte ou d'être aimé, de se laisser ou d'accepter d'être aimé, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, c'est comme, comment ça fait écho et comment tout d'un coup, une mère qui tombe amoureuse peut impacter sur les relations amoureuses d'une fille de 40 ans ou qui tout d'un coup a l'impression elle-même qu'elle est figée et qu'elle a oublié même ce que c'était que de vivre une histoire d'amour. Voilà, enfin c'est tout est, ben c'est comme dans une famille quelle qu'elle soit, tout est poreux, tout impacte.
Merci beaucoup.
Mais merci à vous.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis?
Pourquoi vous faites ça? Hein?